Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci d'être au rendez-vous de l'économie en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio sur 98.fr, en DAB+ sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Développement économique et emploi, chocolatier hors pair, mission commune ou complémentaire dans ce domaine. Ce matin, mardi 1er octobre 2024, experts et expertes sont présents sur le plateau de l'économie en direct pour nous expliquer comment chacun et chacune, à leur manière, soutiennent les entreprises locales et mettre notre territoire en avant. Un fil conducteur qui réunit dans nos studios d'IDFM Radio Frédéric Anfray. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous ce matin.
Merci à vous de nous avoir invités.
C'est un plaisir toujours Frédéric, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu.
Oui, tout à fait, ça me manquait.
Alors chef d'entreprise, PDG du groupe AGP, pardon. Vous êtes le président du MEDEF du Val d'Oise et c'est à ce titre que vous venez témoigner ce matin dans l'économie en direct. Nous poserons la question pourquoi adhérer au MEDEF. À vous de nous présenter au mieux cette organisation patronale et ses engagements auprès des entreprises d'Île-de-France. À vos côtés, Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF Val d'Oise, une prise de poste toute récente.
Oui.
Bonjour Jeanne.
Bonjour Jacqueline.
Merci également de votre venue chez IDFM Radio.
Merci à vous.
Rôle historique du MEDEF dans l'action pour l'emploi et quel apport aux entreprises. Vous nous détaillerez comment le MEDEF, syndicat patronal, représente les intérêts des entreprises, notamment en matière de création d'emplois et conditions de travail. Et avec nous, notre chocolatier préféré, Christophe Lhermitte, de Nature et Cacao. Donc, je l'ai dit, un chocolatier hors pair, spécialiste de sculpture en chocolat. Et Christophe vient de réaliser une merveille, voilà, une véritable œuvre d'art dont nous allons parler dans quelques instants. Bonjour Christophe.
Bonjour Jacqueline, bonjour Frédéric, bonjour Jeanne. Bah oui, on a fabriqué, on a réalisé, on va dire, Notre-Dame de Paris en chocolat. Donc ouais, voilà, donc que du plaisir et que du bonheur. Voilà.
On va en parler en détail tout à l'heure. Merci Christophe. Encore bienvenue et merci pour votre présence en direct sur IDFM Radio dans l'économie en direct. Une émission à retrouver comme bon vous semble en podcast sur le portail pardon de la radio idfm98.fr.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Vous écoutez bien l'économie en direct sur IDFM Radio avec à mes côtés Frédéric Anfray, PDG du groupe AGP, président du MEDEF du Val d'Oise, Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF Val d'Oise et Christophe Lhermitte de Nature et Cacao, chocolatier spécialiste de sculpture en chocolat sur Argenteuil. Et on commence avec vous Frédéric.
Oui, d'abord je regrette que Christophe, tu ne nous aies pas amené du chocolat, ça aurait adouci notre journée.
Oui, effectivement.
Mais le rendez-vous a été pris très tôt ce matin, voilà. Hein, Christophe, on va tout dire à nos invités, voilà. à nos auditeurs, pardon. La prochaine fois, il nous apportera du chocolat, Christophe. Alors Frédéric, sur l'économie locale, quels sont les principaux secteurs économiques du Val d'Oise en ce moment et puis comment se développe-t-il d'après vous?
Alors c'est toujours une question compliquée parce que ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des zones géographiques, puisque selon les bassins économiques, les activités sont pas tout à fait les mêmes. On a des activités qui se portent plutôt bien, c'est connu, l'aéronautique. On a aussi beaucoup toute une filière cosmétique, produits de luxe sur le Val d'Oise qui fonctionne bien. Après on a l'activité bâtiment. Alors quand on parle du bâtiment, on pense à ceux qui posent les produits, mais il y a aussi toute la fabrication des produits, les approvisionnements qui vont avec. Et autres. Donc là on a une activité qui va commencer quand même à être en forte chute. Alors pour l'instant ça se sent pas tant que ça dans les chiffres, mais ça va arriver. Alors il y a plein de raisons qui sont connues, hein. J'enfonce des portes ouvertes. Il y a d'abord les transactions immobilières qui ont fortement chuté, donc moins de rotation des biens immobiliers, donc moins de travaux à faire, puisque chaque fois qu'on arrive quelque part, on fait. On part aussi de périodes où il y a quelques années, il y a eu avec le Covid et l'impossibilité de se déplacer, il y avait eu beaucoup de dépenses de fait, de remise à niveau dans les biens immobiliers que les gens habitent. Donc à un moment donné, on peut pas faire tout le temps les tout se cumule pas. Et puis on a la construction qui est en très forte chute et là ça va se sentir pendant pendant pas mal de temps, sachant qu'il n'y a pas de signaux pour que ça redémarre. Donc il y a le logement, il y a le logement reste soutenu par la uniquement par la filière, essentiellement par la filière logements sociaux, mais où il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par le groupe Action Logement. J'ai un mandat MEDEF où j'ai d'ailleurs inauguré une première pierre avec Jean-Paul Jandon d'un bâtiment à Cergy la semaine dernière. Donc tout le groupe Action Logement qui possède plus d'un million de logements sociaux fait beaucoup de choses pour soutenir la filière, mais je dirais que ça suffira pas. Il y a tout le reste qui est bloqué.
Je reçois régulièrement aussi la FFB ou la CAPEB et on sent qu'ils sont inquiets pour ce secteur.
C'est clair. Alors à l'intérieur des métiers du bâtiment, il y a beaucoup de diversité, donc toutes les activités sont pas touchées de la même façon, mais c'est clair que là de toute façon on le voit bien dans les chiffres de la construction au niveau national, on n'a jamais été aussi bas. Et surtout, à partir du moment où les activités redémarrent, faut pas oublier que faut des permis, faut démarrer, faut construire l'immeuble. Donc quand ça redémarre, c'est des machines quand même longues à redémarrer, et ça va pas se faire. Il y a pas de signaux aujourd'hui, donc on verra dans les semaines qui viennent ce qui se passe d'un point de vue économique, mais pour l'instant, la filière bâtiment est quand même va être touchée, avec encore une fois la filière industrielle qui suit la filière bâtiment, parce que il faut des matériaux, faut tout un tas d'éléments de construction. Voilà.
Alors, je vous ai pas posé la question, mais je vais la poser pour nos auditeurs et auditrices. Comment on se retrouve président du MEDEF dans le 95?
Alors ça c'est une bonne question. C'est pas quelque chose dont on rêve quand on est tout petit. Ça c'est sûr.
Vous n'y pensiez pas en vous rasant?
Non, absolument pas. Absolument pas. En fait, quand on est chef d'entreprise, à un moment donné, les syndicats professionnels, quels qu'ils soient, je suis aussi administrateur de la FFB du 95, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où on va trouver de l'assistance, parce que les syndicats sont quand même structurés pour permettre des liens. Avec ma nouvelle fonction de président, je découvre qu'on est en liaison directe avec toutes les autorités de l'État ou local. Donc on a des accès avec la préfecture, avec France Travail, avec toutes les organisations en fait étatiques, ce qui permet de faciliter la vie de nos adhérents, puisque dans un certain nombre de cas, quand ils ont un souci, eh bien on peut essayer de trouver un accès direct pour résoudre des problèmes. Donc ça c'est une des fonctions. Après, en tant que chef d'entreprise, on peut pas, je pense, être souvent vitupérant vers ce qui se passe et ne pas participer pour essayer de faire modestement évoluer les choses.
Bien sûr.
Et puis localement, je dirais que les clivages sont souvent beaucoup plus faibles que ce qu'on voit au niveau national, à tout point de vue, parce que l'intérêt c'est quand même de faire évoluer les territoires. Et globalement, les activités économiques, c'est des projets. Les projets, c'est des élus qui les décident. Donc c'est des infrastructures. Oui. Là, on a bientôt l'inauguration du port de Bruyères-sur-Oise. On a la chance d'avoir des infrastructures quand même fortes de transport dans le Val d'Oise. Et on sait que c'est les moyens pour les développements. Même si on est passé à côté du Grand Paris et des preuves des Jeux Olympiques, parce que le 95 reste un peu isolé pour ça. J'aime à rappeler qu'il y a 50 ans, on a failli avoir la ligne la plus rapide avec l'aérotrain qui devait être construit pour faire Cergy la Défense. Hein. Bon, ça s'est pas fait et du coup, on est quand même un peu enclavé dans beaucoup de choses. Mais voilà, globalement, c'est de participer au projet et d'arriver à ce qui se réalise et faire progresser le territoire. Et à chaque fois qu'il y a des projets qui se réalisent, bah, c'est de l'activité économique, des entreprises qui travaillent.
C'est
de l'emploi, parce que l'entreprise c'est d'abord de l'emploi, et c'est ça qui est le plus important. On a des créations d'emplois sur le Val d'Oise qui sont plutôt plus élevées qu'en Île-de-France. On avait une réunion avec la préfecture qui nous donne ces chiffres-là. On a aussi tous ces accès aux statistiques réelles en temps réel sur le département, qui sont des fois un peu différentes de l'image qu'on a
que les médias veulent faire passer, même pas.
Je dirais qu'on a, on a souvent, comme dans toute organisation, on a les problèmes qui viennent à nous de la part des adhérents, et c'est pas forcément représentatif de la totalité de la réalité de l'activité. Donc j'allais dire un peu comme quand on va dans une salle d'urgence, il y a des urgences et on voit que ça, mais finalement il n'y a pas que ça. Il y a des activités qui se développent, il y a de l'innovation, il y a beaucoup de choses. Donc ça permet de remettre les choses dans leur contexte sur la synthèse de tout ce qui est dans un département. Voilà.
Merci Frédéric, je propose qu'on fasse une pause et puis on reprend cette interview très intéressante. À tout de suite.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Merci d'être toujours à l'écoute de l'économie en direct sur IDFM Radio avec à mes côtés Frédéric Anfray, PDG du groupe AGP, président du MEDEF du Val d'Oise, Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF Val d'Oise et Christophe Lhermitte, chocolat pâtissier de Nature et Cacao. Frédéric Anfray, le mois d'août voit toujours un événement important pour le MEDEF national, la fameuse REF aujourd'hui. Vous y étiez, bien sûr.
Tout à fait.
Donc, quelques mots sur cet événement.
Alors, c'est un événement qui permet que les adhérents des différentes régions se rencontrent. Et c'est aussi un moment fort de réflexion où il y a beaucoup de tables rondes, beaucoup d'invités de haut niveau. Cette année, et Patrick Martin a souligné que c'était plutôt finalement une chance. Il y avait pour peu de personnalités politiques du gouvernement qui ont pris la parole. Il n'y en avait même eu aucune. Donc ça s'est recentré beaucoup plus sur une chose économique
et ça a permis un petit peu du fait de leur devoir de réserve.
Ah oui, complètement du fait de leur devoir de réserve, puisqu'ils sont plus en,
ils n'étaient plus en fonction. Ouais.
Ça a permis de montrer aussi le rôle syndical d'un MEDEF, parce que en région et en département, on a un rôle d'aide aux adhérents, mais on a aussi un rôle de remonter les problématiques qui vont se traduire en loi ou les lois qui avec les contraintes qu'elles peuvent imposer. Et c'est là toute la puissance d'un syndicat professionnel d'aller négocier pour dire ce qui va, ce qui va pas. Je fais une parenthèse à ce titre. Il y a dans le Parisien de la semaine dernière une interview de Patrick Martin qui dit clairement aujourd'hui que le MEDEF prend ses responsabilités et que le MEDEF n'est pas contre des hausses d'impôts ciblées, puisqu'il faut bien jouer le jeu par rapport au déficit. Donc c'est aussi ce rôle de dire dans les choses qui vont bien, les choses qui vont pas bien, mais de participer à trouver des solutions.
Alors est-ce que justement vous souhaiteriez voir des nouveaux changements réglementaires ou fiscaux pour favoriser la croissance des entreprises
alors,
locales?
Je vais pas me lancer sur ce terrain-là. Le département du 95 me suffit bien et il y a des gens bien mieux équipés pour faire la synthèse de tout le territoire et autres. Donc je suis un jeune président, donc je voulais pas me lancer là-dessus.
Très bien. Bon, je vous poserai la question une autre fois dans quelques mois.
Je veux bien quand j'aurai pris un peu plus de formation.
Merci Frédéric. Quelques mots sur la transition écologique et la responsabilité sociale. Comment justement les entreprises intègrent-elles ces enjeux et le MEDEF travaille-t-il sur des initiatives pour encourager cette responsabilité sociale?
Alors vous faites bien de me poser cette question parce que en fait le MEDEF on va d'ailleurs aller vers nos adhérents pour mieux expliquer comment il fonctionne, parce que moi je découvre mieux de l'intérieur comment ça fonctionne et en fait on n'utilise pas assez ces services. Il y a différentes commissions qui existent sur lesquelles les adhérents peuvent venir, notamment des commissions transition, écologie, mais il y en a dans tous les domaines, qui permettent d'avoir d'accès à de l'information, mais qui permettent aussi, ces commissions font un travail de remontée, de débat pour aller vers des mesures. Donc on a deux choses, on a l'accès direct à la compréhension de textes et les applications et autres, et en même temps la possibilité de voir dans le temps comment les choses vont évoluer. Sur la responsabilité vis-à-vis de l'environnement, il y a pas de sujet. Tout entrepreneur responsable le sait bien. Il faut que ça bouge. Par contre, on parle toujours de l'entreprise et on parle pas des salariés.
Oui.
Et il faut pas oublier que toutes les contraintes qu'on met sur une entreprise, qui sont légitimes ou pas légitimes, rejaillissent sur les organisations, donc sur les hommes et les femmes qui gèrent les entreprises. Il faut quand même reconnaître que depuis 4 ans, on a des mutations qu'on n'a jamais connues. On a la chance, Jacqueline, d'avoir je sais pas si c'est une chance, mais d'avoir un peu d'expérience.
C'est vrai. On a un passé.
On a peut-être moins d'avenir que notre passé, mais bon. On n'a jamais connu un cumul de situations, de mutations aussi fortes. On a connu des crises, il y avait des paliers bas.
Ils se sont succédés les uns derrière les autres.
Avant 2020, oui. On a connu des périodes de crise, mais on va dire quand on était sur des paliers, tout le monde se plaignait, mais il n'y avait pas autant de modifications. Là, on prend une entreprise, on doit s'occuper des véhicules, par exemple, en oubliant des fois qu'on a des contrats avec des appels d'offres et que les véhicules coûtent 40 ou 50% plus cher et qu'on les répercute pas sur les prix. Je passe sur le fait que certains véhicules aujourd'hui n'existent pas en usage. Vous avez besoin d'une camionnette avec quelqu'un qui fait des tournées et qui ne revient pas à l'entreprise et qui va dormir dans une habitation collective. Il va falloir qu'on m'explique comment il fait pour charger pour faire plus de 200 km dans la journée avec un véhicule chargé et autres. Donc on a des injonctions contradictoires avec la réalité. Et la ville aujourd'hui, par exemple, sur la transition avec une agglomération comme Paris, qui veut faire fuir la voiture. Aujourd'hui, ça rejaillit sur les conditions de travail des collaborateurs qui doivent se rendre à Paris avec des véhicules, parce que plus personne n'a envie de faire une heure et demie de trajet aller-retour pouvoir faire un certain nombre de travaux sur Paris. Je parle encore une fois, il y a des activités où vous arrivez, vous avez un travail toute la journée sur Paris. Donc paradoxalement, un gros chantier de bâtiment, les personnels peuvent venir autrement et vous avez les livraisons qui se font. Mais surtout, tout un tas d'activités plus petites où vous êtes obligé de charger et décharger pour aller refaire un appartement et compagnie, ça redevient compliqué. Et les contraintes sont sur les gens qui viennent là. Il faut quand même reconnaître que les prix parisiens font que c'est quand même plus compliqué de se loger localement. Voilà, donc la transition, oui, on a quand même tout qui se cumule. Il faut rénover le bâtiment pour qu'il consomme moins. Donc ça passe par des isolations, ça passe par beaucoup de choses. Il faut rénover les machines pour qu'elles consomment moins. Il faut former le personnel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies, à commencer par nous, elles n'existaient pas quand on a commencé à travailler. Donc la digitalisation et puis tout ce que ça change dans l'organisation du travail, c'est de la formation, c'est de l'organisation, c'est des nouveaux outils et tout ça est cumulatif. Donc la problématique, elle est d'aller au rythme où on est capable de supporter les changements d'un point de vue financier, mais d'un point de vue humain.
Humain, bien sûr.
Parce qu'on oublie trop souvent que toutes ces transitions, nos collaborateurs, ils sont comme nous. Il y a un moment donné, la tête, elle est pleine. On peut pas tout intégrer aussi vite que ça et rajouter des contraintes, parce que faut les étudier, faut les mettre en place, faut voilà. Donc ça, et ça fait partie du bien-être au travail aussi.
Complètement.
Donc on a toute cette transition
qui est censée lutter contre. Je rebondis un petit peu sur ce que vous dites, qui est censée aussi lutter contre l'absentéisme. Mais comme vous le dites très justement, pour lutter contre cet absentéisme, il faut aussi mettre des mesures en place pour.
Voilà. Donc c'est toute cette équation qui est plus compliquée et qui est compliquée aussi en fonction des tailles des entreprises. Alors c'est pour ça qu'au MEDEF, on a la chance d'avoir des très grandes entreprises et des entreprises aussi très petites. Donc on fait le grand écart, puisque dans nos adhérents sur le Val d'Oise, je vais citer deux grands noms, je vais citer Aéroports de Paris et Air France, donc on peut quand même difficilement faire beaucoup plus grand. Et à l'inverse, on a des entreprises de 3, 4, 5 salariés. Ça peut paraître étonnant au premier abord, mais en fait, il y a beaucoup d'accès à d'informations, de savoir-faire qu'on a grâce aux entreprises bien plus importantes qui sont forcément plus en avance parce qu'elles ont des moyens ou tout simplement parce qu'elles ont des obligations fortes, mais qui du coup ont un savoir-faire qu'elles peuvent petit à petit diluer. Et c'est ça qui est intéressant au MEDEF, c'est le mélange de toutes les tailles d'entreprise.
Donc vous êtes en train de répondre à la question pourquoi adhérer au MEDEF?
On adhère à un syndicat pour plein de raisons. Je pense qu'il y a une part de conviction, que rester tout seul, c'est toujours compliqué. Alors le français est quand même assez individualiste par nature, mais je pense qu'aujourd'hui on peut plus. Il y a des choses qu'il faut mutualiser. C'est quand même intéressant quand on rencontre des gens de savoir que il y en a qui sont plus en avance que soi, comment ils ont fait, quels écueils ils ont fait, et tout ça permet de gagner du temps et de dépenser moins d'argent. Et puis aussi d'avoir des démarches pratiques, parce que au MEDEF on est extrêmement pragmatique. J'allais dire les réunions ésotériques où on a des inventaires à non plus finir de tout ce qu'on peut faire, c'est bien, mais la vraie difficulté, c'est comment on passe à l'acte.
Bien sûr.
Et on passe à l'acte, il faut des petites choses simples.
Concret, ouais.
Il faut être dans le concret.
Mmh,
voilà.
D'où votre rôle, vous, en tant que président du groupe AGP, hein, qui est une entreprise qui... comment va-t-elle d'ailleurs? Comment va-t-il,
écoutez,
le groupe?
Écoutez, ça va. On a des activités commerciales qui repartent assez fort. Donc, on va avoir, comme tout le monde, les problématiques après de recrutement. Mais ça, c'est une donnée générale. Au passage, le MEDEF est aussi beaucoup investi sur le retour à l'emploi. Ça fait partie des missions qu'on a avec le département, parce qu'aujourd'hui il faut aussi former des gens qui ont zéro formation parce qu'ils ont eu peut-être des parcours difficiles, mais on a par exemple des contrats où on aide à des retours à l'emploi avec des gens qui sont au RSA, et c'est hyper important socialement pour eux. Et c'est hyper important aussi parce qu'on a des réserves d'emploi fortes avec des gens qui peuvent être extrêmement motivés parce qu'on les remet avec des formations, ils reviennent dans un circuit où ils peuvent progresser, et voilà. Donc ça fait partie aussi de nos missions.
Oui, donc, très bien.
On a souvent une vision un peu hautaine et de grandes entreprises très distantes. La réalité,
vous avez un vrai rôle de proximité. Et peut-être d'autant plus. Comment vous voyez justement cette évolution du MEDEF au niveau départemental par rapport au niveau national?
Je pense que chaque président, mais ça, c'est un peu sa patte avec ses sujets peut-être différenciés. Donc, comme à chaque fois qu'il y a des changements, je pense qu'aujourd'hui on a un MEDEF national qui veut être très près de la vie locale. Donc on va à la rencontre aussi des élus, on va aussi faire passer les messages, parce que faut pas oublier aussi que beaucoup d'élus ne connaissent pas les problématiques des entreprises, donc c'est à nous aussi d'expliciter.
Bien sûr, pourquoi
certains textes sont très bons, pourquoi d'autres textes sont moins bien. Des fois le diable est dans les détails, comme souvent. Et puis pourquoi aussi, il faut comprendre que quand on fait une réglementation et que on n'est pas content sur une réglementation, c'est pas du lobbying dans l'absolu, c'est que on a des contraintes internationales, on a tout ça, et que des fois on joue avec des boulets au pied là où nos concurrents étrangers les ont pas. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas faire, mais comment on fait pour qu'il y ait une harmonisation et qu'on ait une concurrence qui soit loyale. Le MEDEF aujourd'hui développe fortement son implication auprès du Parlement européen, puisque beaucoup de lois se font au Parlement européen.
Bien sûr.
On peut regarder le problème de la voiture électrique. On a subventionné la voiture électrique quand les constructeurs européens étaient pas prêts. On voit les parts de marché, y compris les constructeurs chinois. On a seulement depuis le 1er juillet des taxations par rapport au pays d'origine. Et on n'a jamais fait la globalité du vrai point écologique entre la construction d'une voiture, ce qu'elle fait pendant sa durée de vie et quand on la détruit, la comparaison entre les deux, plus la consommation du carburant. Donc on a aussi des fois des dogmes où on va très très vite sans voir les contraintes derrière. On a un président du groupe Stellantis qui est ingénieur, qui a pas arrêté de dire: venez pas nous reprocher que dans quelques années qu'on a été dans l'électrique, comme vous nous avez reproché d'être dans le diesel, alors que c'est quand même les États qui ont poussé. Non mais il faut...
Et
l'industrie a souvent ça, c'est-à-dire qu'on a les contraintes et puis on vient dire après, mais il y a beaucoup de positions générales. Donc c'est à ça aussi, c'est bien sûr qu'il faut faire tout évoluer. À quel rythme on est capable de le faire, et comment on le fait pour que préserver et développer nos intérêts aussi nationaux, parce que ça sert à rien de faire des choses si ça crée de l'emploi à l'étranger, quoi.
Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Anfray. On comprend que le MEDEF du Val d'Oise, sous votre direction, va jouer un rôle central.
Comme il le jouait avant. D'abord, oui. c'est du collectif. J'ai oublié de vous dire, c'est du collectif. Il y a un conseil d'administration, il y a un bureau qui se réunit. C'est du collectif. Le président, il gère ce que le conseil d'administration a décidé en commun.
C'est ça.
C'est ça qui compte.
Mais
c'est le collectif.
On comprend que le MEDEF accompagne les entreprises face aux défis actuels.
Bien sûr.
Et favorise leur développement, hein, dans un contexte en pleine évolution. C'est
bien
ce que
sûr.
Vous nous avez dit.
Et c'est pour ça que pour nous aider, on a recruté une jeune femme déléguée, parce que je pense aussi que on peut avoir une vision, nous, à 5 ans, à 10 ans, de ce qu'on pense faire, ce qu'il faut faire, mais on a besoin aussi d'avoir des gens
de tous
âges et tous horizons.
Absolument.
Parce que c'est eux qui feront les entreprises et le monde de demain, pas nous. Nous, on touchera notre retraite, Jacqueline.
On l'espère. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce témoignage inspirant. Merci. C'est l'heure d'une nouvelle pause et on se retrouve tout de suite après.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous écoutez bien l'économie en direct sur IDFM Radio et je suis toujours en compagnie de Frédéric Anfray, PDG du groupe AGP, président du MEDEF du Val-d'Oise, Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF du Val-d'Oise et Christophe Lhermitte, chocolat pâtissier de Nature et Cacao. Alors Jeanne Berry-Josselin, donc focus sur vous à présent. Merci déjà d'être, c'est un petit peu le, comment, le baptême du feu,
tout
on va
fait.
Dire.
C'est ça.
Avec votre arrivée toute récente au MEDEF. Donc je vous pose un petit peu la même question qu'à Frédéric. Comment se retrouve-t-on délégué général du MEDEF 95?
Je vais pas dire par hasard parce que ce serait pas complètement vrai. Alors je connaissais un peu Frédéric et puis surtout j'habite dans le Val d'Oise, c'est un territoire auquel je tiens. J'avais pas la chance jusque-là de travailler pour ce territoire et c'est vrai que quand j'ai su que Frédéric cherchait quelqu'un pour travailler en lien avec les entreprises, en lien avec les acteurs de ce territoire, et ben je lui ai dit tout de suite que effectivement ça pouvait m'intéresser et avoir aussi du sens vis-à-vis de ma vie quotidienne.
C'est ça. D'autant que vous avez un parcours académique qui rejoint ce, vous êtes diplômé dans l'aménagement du territoire,
oui.
Des affaires publiques, donc là vous allez mettre à profit vos diplômes.
Je l'espère en tout cas.
Vous l'espérez. Alors, quels sont donc peut-être vous souhaitiez, je crois, revenir sur un petit peu le rôle du MEDEF d'un point de vue historique.
Oui.
En tout cas, le rôle du MEDEF 95. Donc,
oui,
je vous en prie.
Le MEDEF 95 a une particularité. C'est pas le cas de tous les MEDEF territoriaux. On travaille beaucoup sur l'accompagnement dans l'emploi de certains publics, notamment les bénéficiaires du RSA. C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup le MEDEF hein, dans la partie contact avec les adhérents, avec certaines grandes entreprises aussi, c'est un peu la réputation qu'on a, qui est pas forcément vraie, Frédéric l'a dit, mais on travaille aussi avec les acteurs publics, avec le conseil départemental, directement pour faire dans la dentelle de l'accompagnant de certains bénéficiaires du RSA directement vers les entreprises et dire aux entreprises, voilà, on note vous avez besoin de ça, 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 et ben non, on a des profils qui sont peut-être pas les premiers auxquels vous penserez, mais qui peuvent correspondre à cette recherche, et voilà, c'est un travail qui est plus social, qui est aussi plus fin sur le territoire, mais qui est une grande partie de notre travail au MEDEF.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont des projets qui font partie du MEDEF local pour stimuler l'écosystème entrepreneurial également?
Bien sûr, et puis pour donner du sens, c'est intéressant aussi pour les chefs d'entreprise d'avoir des acteurs qui les mettent en lien avec ce public qui est pas le plus facile à identifier. Parfois, ils ont la volonté de recruter des gens qui sont éloignés de l'emploi. Encore faut-il voilà être mis en contact. Donc c'est ce travail-là qui est mené et effectivement ça donne du sens.
L'important, c'est de fédérer autour du MEDEF Val d'Oise et puis représenter toutes les entreprises. C'est ce que nous disait Frédéric en nous citant les différentes tailles.
En tout cas, c'est notre objectif partagé, je crois, avec Frédéric. Je pense pas que tu vas le contredire. Voilà, donc c'est ce qu'on souhaite faire. Je suis pas là depuis très longtemps, Frédéric non plus, et voilà, on souhaite faire grandir cela.
Et vous, donc, quelle est votre mission précisément en tant que délégué général?
Faire en sorte que le président soit tranquille.
Alors ça, c'est la version de Frédéric.
Oui. Alors
il y a une mission évidemment de gestion hein, de la structure, comme tout délégué général, hein, de assez commune, de ressources humaines, de tenue de la structure pour que mon président vienne pas me dire il y a un problème, ça marche pas. Il y a une mission aussi de relations aux entreprises, hein, de pas de commercial, mais un peu quand même d'aller rencontrer les entreprises, y compris celles qui sont pas encore adhérentes, de découvrir leur activité et de voir comment on peut les accompagner, qui est vraiment une mission de terrain. Il y a une mission de représentation auprès des élus, avec Frédéric toujours, de dire voilà comment on met en contact une entreprise qui a une difficulté particulière sur son territoire avec les acteurs politiques ou administratifs de son territoire. C'est assez varié, mais c'est aussi pour ça que le poste m'intéressait, parce qu'a priori, on va pas s'ennuyer.
Et alors, à votre avis, quels sont faits, parce que, bon, on a bien compris que Frédéric nous a dit que vous aviez, vous découvriez, Frédéric, l'importance des relations entre le MEDEF et les instances locales, enfin, les instances publiques. Est-ce qu'il y a des efforts à faire pour améliorer ces relations, Jeanne?
En tout cas, c'est la volonté du MEDEF national, Frédéric l'a dit, il nous encourage, et ils ont raison, à être proche de nos élus, parce que c'est d'abord là qu'on peut avoir un rôle, à échanger avec eux, quelle que soit leur étiquette politique,
Bien sûr,
et à créer du lien aussi pour leur apporter, parfois, parce qu'ils sont pas tous spécialistes en entreprise et en économie, on leur demande pas, des éléments que peut-être ils n'auront pas au niveau de la national, parce qu'ils correspondent aux particularités de leur territoire, aux besoins de leur territoire, et que voilà, on fait partie des acteurs en tout cas qui doivent leur apporter ce niveau d'information.
Récemment, donc, il y a eu les dernières élections législatives, hein, oui. Avec un changement de personnes. Est-ce que c'est compliqué de renouer les liens? Comment le vivez-vous?
Alors,
parce que vous aviez quand même des personnes qui étaient assez connues sur le territoire.
Alors, je pense que c'est je pense que c'est le jeu normal de la vie politique, c'est-à-dire que on doit s'adapter à tout ce qui se passe. Par définition, en démocratie, les députés bien qui sont élus sont toujours bien élus, puisqu'ils sont. En plus, cette fois-ci, on a quand même un taux de participation qui est très élevé. Donc, nous, on n'a pas apporté de jugement sur la nature des étiquettes que les uns et les autres portent.
Je parle pas de ça. Je veux dire parce que finalement, vous aviez fait déjà tout un travail d'approche.
Il faut refaire ce travail. Oui, mais c'est normal.
C'est normal.
Et c'est on aura les municipales. Il y a des maires qui resteront, il y a des maires qui resteront pas. Ouais. On aura les départementales. Il y aura des changements ou pas. Enfin, c'est la vie continue. On a connu des cohabitations. On s'adapte à chaque fois. C'est pas ça qui est très grave. Ce qui est important, c'est que sur le territoire d'un député, on puisse le contacter et qu'on puisse exprimer les difficultés qu'encontrent les entreprises et comment il peut aider son territoire par rapport à ça, ou sur des projets, parce qu'il n'y a pas que des difficultés, il y a des projets, il y a des qu'on comprenne les enjeux et qu'on arrive aussi à se caler sur les uns les autres à se comprendre. Ce qui veut pas dire que si on se comprend, ça veut pas dire qu'on soit d'accord sur tout, surtout pas. Mais donc pour moi il n'y a pas de différence. Ceux qui étaient élus qu'on connaissait, ils n'étaient pas tous connus avant d'être élus.
Bien sûr, oui.
Donc,
je suis d'accord.
Je dirais même qu'au contraire, hein, dans cette situation, avec des entreprises qui pouvaient connaître leur élu parce qu'ils ont visité leur entreprise, etc., c'est à nous aussi de tout de suite recréer du lien pour pouvoir dire aux entreprises, écoutez, on sait que vous ne connaissez pas votre nouveau député, votre nouvelle députée aussi, et on va vous mettre en contact avec eux parce qu'on a fait la démarche. Et effectivement, nous, on reçoit tout le monde, on parle à tout le monde. Là-dessus, il n'y a pas de débat.
Je pense qu'aujourd'hui, on a des députés qui sont plus accessibles globalement. Peut-être pas tous, mais globalement. Moi, dans les années qui se sont écoulées, il m'est arrivé d'avoir des députés qui me disent « Attends, là, tu me parles d'un sujet, explique-moi parce que je connais pas le sujet. » Et je trouve que c'était bien parce que c'est vrai aussi que des fois, on pense qu'ils connaissent tout. Et en fait, la diversité des sujets est telle que bien évidemment, si on était à leur place,
pas tout connaître.
Il y a des sujets qu'on connaît bien. Il y a la majorité des sujets, on les connaît pas. Donc, c'est à nous de leur faire prendre conscience des choses, de leur expliquer et d'échanger. Et à chaque fois qu'on a ce genre de dialogue, on a toujours eu des gens qui étaient quand même intéressés à découvrir ce qu'ils ne connaissaient pas. Et puis après, faut le temps qu'ils se fassent leur apprentissage, leur opinion. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on leur explique des choses qu'ils vont être d'accord avec nous sur nos interprétations et les choses. Mais c'est pas grave, c'est même normal. On n'a pas la vocation à imposer totalement nos idées. On va essayer d'influencer sur ce qu'on croit qui est bien, mais chacun a sa vision du bien et c'est normal.
Merci Frédéric Enfray. Jeanne, vous avez repris un petit peu ce que disait Frédéric au sujet de l'emploi, hein, et des personnes en situation de RSA. Est-ce qu'il y a aussi des initiatives prises pour favoriser l'emploi des jeunes ?
Oui, alors encore une fois, on travaille pas que dans le cadre de nos recherches sur le RSA, on travaille aussi avec les institutions publiques, préfectures notamment, pour favoriser des démarches pour tous les secteurs de l'inclusion qui sont nécessaires, autant les jeunes que les personnes handicapées, etc. On a peut-être un projet bientôt sur la question d'ailleurs, dont on peut pas encore totalement parler, mais en tout cas qui pourra intéresser certaines entreprises. Et oui, la mise en contact de tous les publics, quels qu'ils soient, avec les entreprises qui peuvent avoir des besoins particuliers, fait partie de notre travail en général.
Et vous, en tant que délégué général, ça fait partie de votre mission ou c'est juste la mise en relation surtout ?
Alors, en tout cas, l'intérêt pour la question de l'emploi de catégories qui peuvent être plus éloignées de l'emploi fait partie de ma mission. Enfin, elle fait partie, en tout cas, de l'intérêt pour un sujet qu'on doit avoir dans ce genre de mission. Ça peut être un enjeu en fonction des partenariats qu'on mène sur des événements aussi, des salons où on fait de la mise en contact direct. C'est pas forcément ma première mission, mais oui, ça en fait partie.
En tout cas, ça en fera partie. Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose, non ?
Oui, on était la semaine dernière à la JET de la communauté de l'Aglo Plaine Vallée.
Oui.
On aura un stand à l'Union des maires qui tient sa journée le 4 octobre, si je me trompe pas. Donc c'est bientôt. N'hésitez pas à venir à notre rencontre. Et on a aussi régulièrement, on peut avoir des demandes, enfin des gens qui nous envoient des CV. qu'on essaye de rebasculer sur des
bien
entreprises
sûr.
Parce qu'on est quand même en grande difficulté de trouver des salariés et donc quand on a des gens motivés, on essaye de les orienter vers ce qu'on a besoin.
Jeanne, cette prise de poste récente vous plaît?
Ah oui, beaucoup, on s'ennuie pas, c'est important. Le mois de septembre n'est pas forcément le plus léger pour commencer, mais voilà, non, je découvre plein de choses, je découvre plein d'acteurs, plein d'entreprises et c'est vraiment un plaisir.
C'est vrai qu'on vous sent investi, hein, on a l'impression vraiment que vous êtes bien dans votre nouveau rôle, donc
tant mieux.
Félicitations.
Ça
et puis bienvenue, hein, bienvenue.
Merci
dans
beaucoup.
Notre dans le milieu de la radio UDFM. J'espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir à nouveau.
Un grand plaisir.
Et puis dire qu'en conclusion, il est vrai que le Val d'Oise bénéficie d'un dynamisme économique, hein, porté par des acteurs des secteurs liés clés et des initiatives locales ambitieuses.
Oui, et puis il y a aussi une chose, c'est que les différentes organisations patronales s'entendent.
Oui, c'est important.
Il y a 15 jours, à la soirée qui faisait le point du salon Effervescence, qui est quand
oui,
même.
Oui, j'ai vu que c'était reparti.
Voilà, qui est quand même une grosse structure qui fédère l'ensemble des associations d'entreprises et l'ensemble des syndicats professionnels. C'est important parce que avec la CCI bien sûr
oui, l'incontournable
j'ai pas cité Pierre Cuchely, si je le cite pas il va me fouetter.
Oui.
Et ça c'est important parce qu'il y a on a des diversités, donc là aussi on a des visions ou des choses un petit peu différentes. C'est pour ça que les adhérents peuvent se retrouver chez les uns ou chez les autres, mm-hmm. ou chez les deux d'ailleurs, mais globalement dans l'intérêt général on a une cohésion assez totale, quoi.
C'est vrai voilà. Je confirme. Merci infiniment, Jeanne,
merci
encore pour votre venue. Merci Frédéric. C'est l'heure d'une nouvelle pause, le temps d'écouter Kenji Girac. Et on se retrouve juste après.
Corazón abierto, mi voz que te llama, amigo mío, apúrate. Con los hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte.
Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Me muevo con el viento, mi voz que te llama. Amigo, apúrate con tu sonrisa y tu fe. Abre tus ojos oscuros, con una sonrisa se quiebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte.
Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega.
vida es una sola y todo empieza ahora. Oh, oh, oh. Nunca pares de soñar, no te manches, no cuenta. Oh, oh, oh. Mi fuerza, mi sonrisa y te la regalo yo. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparto una sonrisa.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez bien l'économie en direct avec à mes côtés Frédéric Anfray, PDG du groupe AGP, président du MEDEF du Val-d'Oise, Jeanne Berry-Josselin, déléguée générale du MEDEF du Val-d'Oise et Christophe Lhermitte, chocolat pâtissier de Nature et Cacao. Alors, on va tout dire à nos auditeurs et auditrices, Christophe. Notre rendez-vous s'est pris à 6h du matin, voilà, on a communiqué tous les deux sur les réseaux sociaux.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Et comme trop tôt. Parce que voilà, vous venez de... Alors peut-être vous présenter à nouveau pour nos auditeurs et auditrices, parce que tout le monde malheureusement ne vous connaît pas encore.
Donc Christophe Lhermitte, pâtissier chocolatier sur Argenteuil depuis 15 ans maintenant, 17 ans, ça fait 17 ans que l'entreprise existe. Et plus je vais dans l'âge ou dans l'expérience, je vais dire, plus j'ai envie de faire des créations. Oui, et c'est ma détermination.
Voilà. Donc, vous avez vraiment trouvé un créneau qui vous plaît, qui vous passionne.
Ouais, et c'est avant tout le projet d'une équipe. Voilà. Et aussi mettre en valeur, j'entendais avec Frédéric, mettre en valeur le talent du territoire.
Voilà. Oui.
Donc c'est avant ça, c'est exister, montrer notre savoir-faire, parce qu'en fait, on entend toujours parler des grands, entre guillemets, des champions, les meilleurs ouvriers de France dans notre partie, entre guillemets, et les petits, entre guillemets, comme nous, on nous oublie. Alors donc là, je veux mettre la vapeur à l'envers. Voilà.
Alors, je vous ai présenté comme un chocolatier hors pair. Racontez-nous aussi votre. Vous avez participé aux Jeux Olympiques.
Oui.
Expliquez-nous.
Alors depuis le début de l'année, il s'est passé quand même beaucoup de choses pour Nature et Cacao. On a fait une exposition à la Fred sur Seine sur les impressionnistes.
Oui, donc vous avez participé, qui était magnifique.
Je fais de la reproduction, d'œuvres en chocolat, tableaux, la peinture, voilà, en chocolat. Donc c'est surprenant, on y arrive. Et dans la foulée, en fait, on a refait aussi, on a mis en place la reproduction de personnes en chocolat avec ressemblance. Donc j'ai fait en priorité
dont notre fameux Pierre Kuchli.
Oui, c'était l'indéniable, parce qu'en fait lui derrière tout ça, il m'a lancé un message il y a une dizaine d'années, fait quelque chose que les autres font pas, et j'ai mis 10 ans à le faire, mais ça y est, c'est fait, c'est en route. Donc ça a été le premier à ce que je le fasse quasiment. J'ai commencé par moi quand même.
Oui, c'est vrai, je me souviens. Oui.
Et tout ça mis bout à bout, donc j'ai fait mes premiers essais.
Bien ordonné.
J'ai reproduit ma fille en taille réelle en chocolat. Tout ça est visible dans le magasin actuellement. J'ai reproduit aussi un rugbyman, le Venceslas Loré aussi. Oui. J'ai reproduit aussi Riyad Salem, un joueur paralympique qui fait partie du Cojo aussi.
Un athlète de rugby en fauteuil.
En fauteuil. fallait, ouais, voilà. Donc en fait, ça a été, les gens ont joué le jeu, entre guillemets, c'est quoi de le dire, avec les Jeux Olympiques. Et pour la cerise sur le gâteau, bah, j'ai participé à la présentation le 23 juillet dernier, à une masterclass devant les, à l'hôtel de la ville de Paris. Donc c'était un grand moment professionnel, un grand moment d'échange aussi.
Un vrai défi, puisqu'il faisait chaud.
Un vrai défi.
Mais vous avez eu un vrai défi. Concours de...
Voilà, les concours ont fait que ça l'a fait, notre professionnalisme notre détermination, et voilà.
Oui, vous avez eu le concours de Julien, hein, Delanegra, qui vous a,
exactement,
qui vous a proposé des vitrines réfrigérées.
Exactement.
Donc,
voilà,
donc ça s'était plutôt bien passé.
Exactement, ouais.
Et ce matin, donc, vous êtes avec nous parce que vous venez de réaliser une nouvelle œuvre, donc incroyable, que j'ai vue plusieurs fois en photo. Je ne l'ai pas vue en vrai encore, mais ça ne devrait pas tarder.
Ça ne devrait pas tarder.
Donc, je vous laisse nous parler de cette œuvre.
Donc, nous avons, en fait, au mois de juin, nous avons refait sur une commande la mairie de Puteaux. Et suite à ça, suite à la réussite, hein, Madame le maire a été très bluffée, très satisfaite du résultat, et nous aussi au passage. Et parce que chaque réalisation est un défi. Donc on commence, mais qu'est-ce que ça va donner ? Donc c'est toujours un défi si rien n'est dessiné par avance. Hein. Et donc suite à ça, j'échange avec mon Corentin, mon pâtissier, qui je dis, j'aimerais bien faire une tablette Notre-Dame. Et il me répond pas. Puis quelques jours après, il me dit bon, on va pas faire une tablette, on va faire Notre-Dame.
Bon. Carrément.
Bon voilà.
Bon, puis,
et voilà.
Trop facile la tablette.
Voilà, c'est presque ça, voilà. Ouais. Et voilà, donc aujourd'hui on a relevé le défi, 250 heures de travail, il y a environ 60 kilos de chocolat. Alors c'est pas la quantité de chocolat, mais c'est la fabrication, bien la sûr. Mise en place, ouais, parce qu'en fait derrière tout ça, c'est il y a un grand savoir-faire numérique, aussi artisanal. Donc on allie les deux. Donc voilà, c'est un grand défi, parce qu'aujourd'hui je mets au défi
quiconque
de le faire, voilà, parce qu'en fait c'était même le fabricant de la machine avec lequel je travaille là, à découpe haute pression jet d'eau, est bluffé du résultat qu'on fait, voilà.
Vous aiguisez même notre curiosité, parce que on aimerait bien voir une réalisation sur place. Est-ce que c'est possible?
Alors mon laboratoire est très très petit, oui. Voilà, c'est ça, c'est moi le souci. Je pense que Jacqueline, je vais faire une vidéo et la mettre.
Parce qu'en fait,
pas la première à me le demander. Parce qu'en fait, on a du mal à se projeter de notre travail, etc. De notre travail. Alors, on a un métier manuel à la base.
Oui.
Maintenant, mon pâtissier commence à travailler assis devant son ordinateur.
Oui.
Pour faire des réalisations. Donc c'est même pour moi c'est un choc.
Il a le virus.
Ouais. Et même pour moi c'est un choc culturel au niveau du travail, parce que ça s'appelle l'évolution, l'évolution du travail, et ça c'est un rapport d'ancienne génération et nouvelle génération, parce que j'ai mon collaborateur qui a une trentaine d'années. Donc on allie notre expérience l'un et l'autre. Donc c'est énorme.
L'expérience
est énorme, parce qu'en fait, c'est pas mon salarié, c'est un collaborateur, et on va tous les deux dans le même sens. C'est un grand plaisir. Voilà.
Frédéric Enfray.
Quand je t'entends en parler devant l'ordinateur, est-ce à dire qu'à la limite, il pourrait faire du télétravail?
Ouais, bientôt, ouais.
Non, mais
bien sûr, tout à fait. Ouais.
D'accord.
À 50%,
oui. Ça veut dire que tu as une idée la nuit, tu prépares ton truc, tu le lances, et le matin, tu vois, c'est ça?
Tu te rappelles quand on avait été à Dassau?
Oui.
On a fait une tablette, j'ai fait une tablette pour présenter...
En Allemagne.
En Allemagne. Je vais envoyer le
avec
choix.
Avec la mairie d'Argenteuil.
Avec la mairie d'Argenteuil. On avait fait... je vais envoyer le projet, et le matin, à 8h, on avait la tablette à présenter au maire de Dassau, voilà.
Oui, donc c'est vraiment une révolution culinaire, on peut dire.
Ouais, culinaire, ouais, ouais. Culturelle aussi. Là, je suis en train de travailler, de préparer aussi avec Proctor Borose.
Oui.
avec une association de pontoises. Donc leur emblème, leur logo, c'est une main. Donc ils l'ont fait faire par un artiste et je l'ai refaite en taille 1 aussi,
d'accord,
pareil,
d'accord.
En chocolat, chocolat rose évidemment. Et voilà, donc en fait... j'aime bien les défis.
Et alors, toutes ces œuvres, hein, puisqu'on peut vraiment parler d'œuvres, ça vous détourne pas trop du quotidien? C'est-à-dire, parce qu'il faut faire tourner la boutique?
Complètement, ça me détourne. Alors donc, j'ai des gens qui sont passionnés avec moi,
ouais.
Très organisés aussi, nous sommes très organisés. Et voilà, donc on arrive toujours à trouver des solutions. Voilà. Donc, mais on a une période aussi.
Il faut être super organisé.
Oui, il faut être super organisé. Et en parlant d'emploi, je viens d'embaucher mon apprenti. 4 ans d'apprentissage, 3 CAP, je viens de l'embaucher. Voilà, donc
oui.
Une fierté,
donc,
une fierté et je renouvelle, je viens de rembaucher une jeune fille pour l'apprentissage.
C'est
donc,
ça,
voilà.
C'est que vous savez bien choisir vos collaborateurs aussi.
Ben, c'est indéniable.
Christophe, cette Notre-Dame là, donc en qui est vraiment, parce que c'est pas une Notre-Dame de 10 cm sur 10, hein, elle fait, c'est quoi le format?
Le format, c'est 1,50 m de long, 90 cm au clocher, au coq, et 55 cm de
c'est
voilà.
C'est vraiment, c'est une maquette, quoi.
C'est une maquette en chocolat. Et voilà, donc là, elle est exposée au magasin, elle va être exposée aussi au Salon des Mères le 4 octobre prochain. Voilà, et je fais tout pour l'exposer à Notre-Dame.
Ce qu'il faudrait surtout, voilà, c'est contacter l'évêché.
Voilà, je suis en rapport avec
vous
lui déjà, donc
ouais.
Tout est en cours de négociation en ce moment.
Super,
voilà.
Bah écoutez, voilà, il nous reste plus qu'à vous souhaiter de réussir, vous nous tiendrez au courant, bien sûr, de cette évolution.
Oui, en fait, aujourd'hui, mes ambitions, c'est de trouver des partenaires pour faire, je sais pas, mais des œuvres, on parlait de construction, refaire des livraisons de construction à l'échelle en chocolat. J'ai comme client un grand constructeur Bouygues, sans le nommer.
Oui, oui.
Voilà, donc je lui refais des tablettes de chocolat d'œuvres de construction qu'il remet aux architectes. Voilà, donc en fait, on me demande, je fais. Voilà, donc voilà, en fait, là, on dépasse nos
oui, vos propres limites.
Ouais, parce qu'en fait, un client me pose la question, je concerte mes collaborateurs, puis on voit, voilà. Donc, voilà, donc même le mois de juillet, un mois où on est calme, j'ai eu du travail parce qu'en fait...
Vous avez réussi à contourner le problème commercial, en fait, en créant ces...
On est quand même dans un moment de développement, parce que chaque développement prend énormément de temps.
Il va peut-être falloir changer de laboratoire.
Oui, changer de laboratoire,
si
ça fait tellement longtemps que j'y pense et que c'est toujours compliqué parce que je pense à mes collaboratoires, j'en ai un qui est à 6 minutes à pied, 3 minutes en trottinette.
C'est ça.
Et le confort de mes collaborateurs est très important pour moi. Donc voilà. Donc j'hésite à changer.
Il faut lancer un appel sur la mairie d'Argenteuil. Voilà. Merci infiniment, Christophe.
Merci.
Et puis continuez à nous régaler les yeux et puis les papilles, hein, parce que on a beaucoup parlé d'œufs, mais votre chocolat est délicieux, hein, Frédéric.
Je sais pas, je me rappelle plus du goût. J'ai pas goûté aujourd'hui.
Bientôt, mais non, un chocolat bio, donc voilà.
Et Christophe est dans l'avenue principale, Gabriel Péri, à Argenteuil, donc n'hésitez pas à vous arrêter. Parce qu'il fait du chocolat mangeable, normal, en tablette, en plein de morceaux.
C'est ça.
Et des gâteaux, parce qu'il met en avant...
Il y a des gâteaux fabuleux.
C'est pas simple d'acheter la cathédrale, ni en termes de coût, ni pour la mettre chez soi, mais c'est un chocolatier normal par rapport à ça.
C'est vrai.
J'ai oublié d'en parler, même.
Faut pas peur.
Oui, c'est pour ça que je te fais la pub. Et tu me commissionneras un paquet. Hein.
Voilà, merci Frédéric pour cet ajout incontournable. Voilà, c'est bientôt la fin de l'économie en direct sur IDFM Radio. Mais donc, vous savez qu'on ne se quitte pas comme ça. Il y a toujours un petit mot de conclusion avant de se quitter. Donc, je vais donner la parole à Jeanne avant de nous quitter. Un mot de conclusion.
Peut-être très rapidement, pour dire notre actualité. Depuis hier, on a une nouvelle carte au Cercle, qui est le restaurant du MEDEF 84 boulevard Héloïse. Donc, on vous encourage à venir découvrir à Argenteuil, bien sûr.
D'accord. Très bien. Ben, merci pour cette annonce. Merci, Jeanne. Christophe, un mot de conclusion.
Un mot de conclusion, je vous invite à venir voir Notre-Dame au moins à Argenteuil dans notre magasin parce qu'elle va être exposée un bon bout de temps. Donc j'espère qu'elle
y est là en ce moment, on peut y aller.
Là c'est en fin de semaine, début de semaine prochaine le 4,
elle va à la journée des mères.
J'espère qu'elle va voyager et dans de bonnes conditions évidemment, mais voilà, je vous invite à venir la découvrir parce que je pense que ça sera un monument unique, au moins dans l'Île-de-France actuellement.
Voilà. Parce que justement, ce que vous dites là, c'est important. Ça doit demander énormément de précautions pour transporter.
Oui, ça demande beaucoup d'attention, de précautions, parce qu'en fait, c'est fragile. Mmh. Ça reste du chocolat. Et voilà, donc c'est en quelque sorte le salaire de la peur à chaque fois que je la transporte.
Oui, c'est pas de la nitroglycérine, voilà. mais presque. Et j'ai oublié de dire que vous avez commencé votre première vraie œuvre, c'était la Tour Eiffel. Hein.
Oui, la Tour Eiffel, oui, qu'on a commencé l'année dernière. On l'a présentée pour le Salon du Chocolat à Paris. Et depuis, on a des ailes à refaire toutes les œuvres qu'on nous demande. Voilà, donc. Il n'y a encore rien de prévu parce que Notre-Dame a été quand même un gros morceau temps et énergie. Là, on veut en faire la promotion pour que ça nous envoie ailleurs. Mais je pense que je vais être sollicité. Je l'espère tout du moins.
Donc, et je peux vous dire que la Tour Eiffel, ça a donné des idées à d'autres chocolatiers, hein, pas d'accord. Très loin de chez nous.
D'accord, ok. Voilà. Je suis heureux de l'apprendre parce qu'en fait, on a quand même un métier de partage. Un métier de partage. Donc en fait, si je peux être un moteur ou avoir envie d'eux,
c'est un exemple.
Donc en fait, mon slogan c'est oser marquer les esprits. Je marque les esprits et c'est très bien.
Et vous y arrivez parfaitement. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour votre venue. Frédéric Enfray, le mot de la fin, c'est pour vous.
Et écoutez, merci Jacqueline de nous avoir invité, d'avoir expliqué un petit peu ce qu'était le MEDEF. Je voudrais rajouter qu'on a à la fois deux axes très techniques. On est capable d'une grande technicité, mais que sans ça, la convivialité et l'entraide est quand même la donnée d'entrée essentielle.
C'est l'ADN MEDEF.
J'allais dire, on est quand même échéant d'entreprise, c'est l'humain, nos salariés, c'est de l'humain, et c'est ça qui compte le plus. Après, les problèmes techniques, faut les régler parce que c'est des problèmes techniques. Mais c'est d'abord, on entre dans un syndicat comme le nôtre parce que on y trouve ce qu'on veut au niveau humain avec les gens qu'on rencontre. Voilà. Et le spectre est large parce qu'on a, encore une fois, on est des personnalités d'horizons très divers, donc des gens qui sont autodidactes, dont un que vous connaissez bien qui est Argenteuil, mais il y en a plein partout. Et puis des gens à l'inverse multidiplômés. Certains ont créé leur société en partant de zéro. Vous savez que de par ma formation, je suis un soutien fort de la création d'entreprise. Et puis à l'inverse, vous avez des gens qui viennent de très grandes entreprises, qui savent gérer des choses très très importantes qu'on serait pas capable de faire et qui en même temps le disent, ils seraient pas capables non plus de gérer ce qu'on fait sur une petite entreprise où on est multifonction, puisque ce qu'on fait pas, personne d'autre le fera. Et c'est ça qui est intéressant et qui n'est absolument pas en opposition, mais qui est plutôt en synergie.
Voilà. Très bien. Juste encore une dernière question, votre emploi du temps, votre agenda, comment va-t-il?
Il va pas bien. il va pas bien. Il va aller mieux maintenant qu'il y a Jeanne. Alors il va aller mieux, mais en même temps, elle va me coller plein de rendez-vous. Après, c'est quand même extrêmement.
Parce qu'il faut arriver à tout concilier, votre rôle de PDG, de président.
Oui, mais en fait, il faut voir aussi.
Vos autres mandats.
Il faut voir aussi que pour faire bouger les choses sur des sujets sur des sujets qui sont utiles. Et c'est la seule façon, c'est dans les syndicats. On avait une réunion au MEDEF Île-de-France. Aujourd'hui, on pousse aussi à avoir par exemple des zones. Comment on va faire demain pour que les véhicules utilitaires puissent aller dans Paris s'ils soient électriques? Il faut des zones qui soient abordables pour des PME pour pouvoir garer les véhicules, faire des ruptures de charge et autres. Sans ça, on n'y arrivera pas.
Oui.
On peut pas avoir une volonté de baisse des prix d'un côté et puis de l'autre côté tout gérer. C'est pas possible. Donc ça c'est des problématiques, des sujets qu'on peut apporter quand ça remonte. Et après sur mon planning. Tout ce qu'on fait là nous ouvre aussi la porte sur ce qu'il faut qu'on fasse dans nos entreprises, parce que sans ça, si on est totalement que focus sur notre entreprise, eh ben on voit pas comment le monde y bouge autour.
C'est vous garder ça à présent.
Donc c'est mon troisième cycle en même temps.
Merci Frédéric, puis félicitations encore pour cette élection et puis cette mission que vous prenez à bras le corps. Merci infiniment.
Merci Jacqueline, à bientôt.
Et merci à tous.
Merci encore à tous les trois d'avoir été nos invités pour nous exposer tous ces rouages et puis vos passions. Retrouvez son podcast sur le site idfm98.fr. Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Vendredi, je vous donne rendez-vous à 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct avec là de nombreux invités. Alors à vendredi, bonne journée et belle semaine.